Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, 4 août 1983, 4 août 2023, et cela fait 40 ans, jour pour jour, que le capitaine Thomas Sankara avait pris le pouvoir et a engagé d'énormes réformes politiques et démocratiques. À l'international, au Niger, les militaires au pouvoir ont dénoncé hier les accords militaires et la présence des forces françaises dans le pays. Et puis notre invité de la rédaction est Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Avec lui, il est question des travaux de rénovation du stade du 4 août ainsi que les salaires des sélectionneurs nationaux. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans la nuit du 4 août 1983, la haute volta actuelle Burkina Faso rentre dans l'aide de la révolution démocratique et populaire. Et cela à travers la proclamation du Conseil national de la révolution CNR, lu par le capitaine Thomas Sankara. Et cela fait donc 40 ans, jour pour jour, que le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara avait pris le pouvoir et a engagé d'énormes réformes politiques et démocratiques. Valérie Guéré et Julie Tombiano pour le rappel des faits.
Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, des militaires venus de Pau avec à sa tête le capitaine Blaise Compaoré font une descente musclée dans la capitale avec un commando de Pau pour libérer leur camarade Thomas Sankara et renverser du coup le pouvoir militaire de Jean-Baptiste Ouédraogo. Il ne faudra pas bien longtemps pour qu'on apprenne que c'est Thomas qui dirige désormais les affaires. Très rapidement, le chef de la révolution burkinabé fera une déclaration à la radio nationale pour assurer pleinement leur action, c'est-à-dire le coup d'État, et rassurer que le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo est gardé en lieu sûr, sain et sauf. Une révolution qui n'était que l'aboutissement d'une insurrection déclenchée le 17 mai 1983. En effet, un mois plus tard, le 17 juin 1983, le président Jean-Baptiste Ouédraogo effectue une purge au sein de son gouvernement. Le premier ministre Thomas Sankara est arrêté, ainsi que ses deux compagnons Boukari Lengani et Henri Zongo. Ils sont soupçonnés de comploter avec la Libye dans le but de renverser le gouvernement en place. Pourtant, le capitaine Sankara a joué un rôle clé dans le coup d'État de 1982 qui avait porté Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir. C'est ainsi que Thomas Sankara, Blaise Compaoré et d'autres de leurs compagnons vont former le Conseil national révolutionnaire CNR pour diriger le pays. Le père de la révolution voltaïque exprime sa volonté d'entreprendre des réformes démocratiques et populaires. Un an après sa prise de pouvoir, c'est-à-dire le 4 août 1984, le chef de la révolution burkinabé célébrait le baptême de la Haute Volta. La Haute Volta devient Burkina Faso, qui signifie « patrie des hommes intègres ». Dans la même veine, les couleurs du drapeau et la devise du pays sont aussi changées. En associant la notion de l'intégrité au nom du pays, il lançait ainsi un défi permanent aux Burkinabés de toutes les générations, celui d'être à la hauteur du nom de leur terre natale, des hommes et des femmes intègres.
Ceux qui ont vécu cette période de la Révolution se rappellent certainement de cet orchestre, les Colombes de la Révolution, un orchestre qui avait pour but de déceler les talents et de faire valoir les actions des révolutionnaires. Les Colombes de la Révolution étaient dirigées par Abdoulaye Cissé, Ati chanteur 40 ans après cette belle époque. Abdoulaye Cissé garde en mémoire de bons souvenirs de cette période de sa vie. Il regrette amèrement le départ de son ami, le capitaine Thomas Sankara, assassiné en octobre 87. Remontons le temps avec Faridatou Belem et Solomon Nikiema.
Abdoulaye Cissé, artiste musicien, a connu la révolution d'août 1983. Il était animateur à la radio nationale à l'avènement de la révolution. Convoqué un soir à la présidence, le capitaine Thomas Sankara présente à Abdoulaye Cissé le projet de création d'un orchestre appelé les Colombes de la Révolution. Cet orchestre était composé de jeunes garçons dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans et de jeunes filles de 17 ans et plus. Les colombes de la révolution étaient, selon Abdoulaye Cissé, le porte-flambeau de la révolution. Leur rôle véhiculait des messages à travers la musique pour promouvoir les actions révolutionnaires. Abdoulaye Cissé a la nostalgie de cette époque.
Les souvenirs, c'est des bons souvenirs pour moi. C'est les tournées, aller en Europe, aller en Afrique, faire le tour du monde avec le président. C'est beaucoup d'expériences que moi j'avais vécu déjà quelques fois en individuel. Mais bon, avec la formation, c'était vraiment, c'est super quoi, avec les enfants, avec l'orchestre des filles. Donc on a eu la chance quand même de vivre des bons souvenirs.
Le septuagénaire garde un seul mauvais souvenir de cette période révolutionnaire. Il s'agit de l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Une pilule qui fut difficile à avaler.
Comment je l'ai vécu ? Très mal, comme tout le monde à cette époque-là, très mal. Parce qu'on ne s'y attendait pas. C'était vraiment très, 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 très triste. Ben ouais, c'est comme ça. Vu les liens qu'il y avait entre nous, vu les liens qu'il y avait entre lui et ces deux formations-là, c'était vraiment très, 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 très triste pour nous.
Malgré ce coup de massue qu'a subi le groupe avec l'assassinat de Thomas Sankara, Abdoulaye Cissé ne regrette pas son attachement à la révolution. Pour lui, diriger l'orchestre Les Colombes de la Révolution était aussi une façon d'apporter sa pierre à l'édification de son pays. Et il en est fier.
En 4 années de révolution conduite au Burkina, Thomas Sankara a été le sujet de nombreux titres musicaux. Les artistes chanteurs du Burkina comme d'ailleurs ont chanté le père de la révolution du Burkina, de son vivant comme après sa mort. Petit tour d'horizon des chansons qui mettent à l'honneur Tom Sank, c'est avec Gildas Da.
4 août 1983, un jeune svelte capitaine prend le pouvoir au Burkina. La révolution qu'il va implémenter à son pays, le Burkina Faso, va en fasciner plus d'un. Thomas Sankara et la révolution burkinabé vont être chantés par des artistes de divers horizons. Le tube de la diva Chalamwana n'est pas chanté en Lingala, langue de son pays, la RDC, mais bien en Moré, une langue du Burkina. Dans cette chanson, la star africaine des années 80 dit que le Burkina s'édifie grâce à la révolution. Après l'assassinat de l'homme en 87, de nombreux artistes vont chanter son nom. Depuis le Mali, Nahawa Doumbia Fleur Sankara. L'incarnation de l'intelligence, c'est lui qui a redoré le blason de l'Africain noir est mort. Ainsi parle-t-elle de Sankara dans ce titre. Sur la même longueur d'onde, le Sénégalais Didier Awadi, lui, se proclame fils de Sankara. Militaire révolutionnaire mort, mais son esprit demeure comme le clame Rickson Dolex du Burkina.
Nous étions étrangers à cette terre. Nous ne pouvons donc pas la payer.
En 2022, le procès Thomas Sankara aura enfin rendu son verdict. Mais avant ce jugement, beaucoup comme le reggae maker Océan attendaient que la vérité sorte. Et ils sont nombreux les artistes qui ont chanté ce héros africain, Fadal Dey.
Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits.
Le rappeur français Manova et son texte Acerbe.
Et tu apprends Sankara, pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade, ni un illuminé, ni un phara.
Sido Païs de Guinée-Bissau.
Aujourd'hui c'est toi Sankara, toi qui étais le miroir.
D'Afrique à l'Europe, en passant par les Amériques, l'Asie et l'Océanie, le nom de Thomas Sankara retentit comme celui du héros africain qui a fait face aux puissants pour le bien de son pays.
Actualité internationale, dans un communiqué lu à la télévision nationale hier jeudi, les militaires au pouvoir, donc du côté du Niger, du Conseil donc national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont décidé de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. Il s'agit plus précisément des accords qui concernent le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une intervention étrangère ne permettra pas donc de résoudre la crise au Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier, ont estimé ce vendredi les autorités russes au moment où le président déchu nigérien Mohamed Bazoum a appelé les États-Unis et la communauté internationale à agir. Il est peu probable qu'une intervention militaire, donc une intervention de forces étrangères, puisse améliorer la situation, a déclaré à des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en appelant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger.
Omega Sport.
Il était intouchable et il a respecté son statut. Hugues Fabrice Zango a remporté hier après-midi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la médaille d'or dans l'épreuve du triple saut des 9e Jeux de la francophonie. Le triple sauteur burkinabé, qui n'a plus rien à démontrer sur le continent, a réalisé un bond à 17,11 mètres, battant ainsi le record des Jeux. Des détails avec notre envoyé spécial à Kinshasa, Bernabé Cabré.
Hugues Fabrice Zango sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve du triple saut. Il était attendu, le Burkinabé a régalé au stade des Martyrs de Kinshasa en écrasant complètement la concurrence. Avec une performance de 16,95 m jusqu'au cinquième essai, l'étalon va aller au-delà des 17 mètres lors de la sixième et dernière tentative. Un bond à 17,11 m qui lui vaut l'or et le record des Jeux de la francophonie qu'il avait lui-même établi en 2017 à Abidjan.
Je suis arrivé à Kinshasa déjà hier, 24 heures avant le championnat. Il faut dire que c'était un choix aussi stratégique parce qu'on a quand même deux championnats qui se succéderont, les Jeux de la francophonie mais également les championnats du monde. On sait qu'il faut être extrêmement fort pour les championnats du monde. Et donc j'ai fait une grosse prépa, ce qui fait que j'arrivais ici avec un peu de fatigue dans les jambes. Et donc forcément je savais que ça allait être quand même un peu compliqué de sortir de la grosse perf ici. Mais je savais que j'avais les moyens mentaux en tout cas de pouvoir titiller et de gagner. Ça prouve qu'il y a du travail qui est fait, ça prouve qu'on progresse aussi et ça c'est de très bonnes choses. Hein. Ça montre aussi à la jeunesse qu'il faut redoubler d'efforts parce que les prochaines éditions vont certainement se gagner encore plus loin. Donc c'est aussi un appel à la jeunesse pour qu'elle ne donne pas.
Prochaine échéance pour Zango, les Mondiaux de Budapest qui débutent le 19 août en Hongrie. Médaillé d'argent en 2022 à Eugene aux États-Unis, l'objectif du Burkinabé cette fois-ci est clair. Allez chercher l'or.
Bernabé Cabré Kinshasa, Radio Omega.
Merci donc à notre envoyé spécial du côté de Kinshasa, Bernabé Cabré. La chasse donc aux médailles se passe bien pour le Burkina Faso. Déjà médaillé d'or aux 100 mètres il y a deux jours, Rianatou Mouné a également remporté hier sa deuxième médaille d'or en saut en longueur en disport pour les malvoyants. Une satisfaction pour cette championne qui rêve donc d'une carrière comme celle de Hugues Fabrice Zango et Iron Bibi. Toujours dans le cadre des Jeux de la francophonie, les étalons des moins de 20 ans affrontent ce soir à 15h temps universel les U20 du Bénin en match comptant donc pour les demi-finales de cette compétition.
La revue de presse.
La revue de presse du jour donc nous amène exclusivement au Niger. Le quotidien du jour se pose beaucoup de questions sur l'ultimatum donné à la junte. Le général Abdourahmane Tchiani et ses camarades ont pris le pouvoir au Niger par la force et ont donc jusqu'à ce dimanche 6 août pour rétablir la légalité constitutionnelle et restituer le pouvoir à Mohamed Bazoum. Plus de détails avec Valérie Guéry.
Les manchettes du jour se posent des questions sur ce qui va se passer ce dimanche au Niger. Ultimatum à la junte au Niger, que va-t-il se passer d'ici dimanche? S'interroge l'Express du Faso et le journal Le Pays de renchérir en posant la question de savoir des émissaires de la CEDEAO à Niamey sur fond de préparation de l'intervention militaire, la médiation de la dernière chance. Selon ce journal, à quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la junte nigérienne, les initiatives de médiation se multiplient, souligne le journal des 1200 logements. Que va-t-il se passer si, jusqu'à cette date, les militaires refusent de restaurer la légalité constitutionnelle et de remettre le pouvoir à Mohamed Bazoum, se questionne l'Express du Faso. À la présidence de la CEDEAO, on estime qu'une intervention militaire sera le dernier recours. C'est sans doute ce qui explique les missions de bon office auprès des militaires afin de trouver une solution pacifique, analyse notre confrère du journal Bobolais. Certains pays africains doivent donc tirer des leçons de ces sanctions inhumaines de la CEDEAO et travailler pour être indépendants dans certains domaines clés pour la vie des populations. La CEDEAO a prouvé à maintes occasions qu'elle n'est pas une CEDEAO des peuples, mais un conglomérat de chefs d'État prêts à faire souffrir les peuples pour atteindre leurs objectifs aussi inique que cynique, opine le journal Le Quotidien. Et l'observateur Palga de rappeler que hier 3 août, le Niger a commémoré son 3 ans d'anniversaire d'indépendance. À cette occasion, l'Ob se demande si l'artillerie lourde des sanctions économiques et financières et l'éventuelle utilisation de la force par la CEDEAO vont-elles sauver Mohamed Bazoum? En attendant, les Nigériens ont vécu hier un anniversaire d'indépendance au goût de cendre, écrit notre confrère de l'Observateur Palga. Toujours au Niger, nos éditorialistes annoncent cette fois-ci la suspension de France 24 et RFI. Ça y est, soupire le journal Le Pays, Niamey vient d'emboîter le pas à Bamako et Ouagadougou en suspendant RFI et France 24. En le faisant, les putschistes nigériens cherchent à s'attirer la sympathie de l'opinion nationale dans un contexte où va crescendo le sentiment anti-français au Sahel, opine ce journal. Ça n'a pas traîné. Car si au Mali et au Burkina, ce fut bien des mois après l'arrivée des transitions kaki, au Niger, le général Tchiani et ses hommes ont préféré taper sur les deux médias, Bouk et Mystérisé, et surtout à quelques jours d'un ultimatum de la CEDEAO qui menace d'intervenir par la force, renchérit aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, reçu lundi dernier sur le plateau de Omega Sport par Ibrahim Bailly et Idrissa Lompo. Le docteur Boubacar Savatgo est revenu sur le stade du 4 août. Il a également abordé la question des salaires des entraîneurs et les nouvelles réformes de son département. Écoutons donc Boubacar Savatgo.
Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, Bailly.
Le stade du 4 août reste une épineuse question. Qu'est-ce qui bloque l'avancée des travaux actuellement? Allons-nous retrouver le stade pour les prochaines échéances des étalons, mais aussi des équipes engagées en compétition africaine?
Alors, le stade du 4 août, le fameux stade du 4 août, ce n'est pas seulement l'affaire des sportifs, c'est l'affaire de tout le Burkina. Ça ne fait aucune fierté pour nous. Cameroun, nous sommes qualifiés dès la 4e journée des éliminatoires à la CAN qui vient en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons pas de stade. Et tout ça, ça fait mal. Alors, nous avons regardé objectivement parce que la question du stade avait été traitée à un moment donné avec légèreté. Nous avons 3 éléments sur le stade du 4 août. La première, qui est fondamentale, c'est le fait que le stade a été disqualifié. Donc, il y a des éléments à réhabiliter pour que l'on puisse être réqualifié. Le deuxième élément, c'est ceux qui sont en train de réaliser les travaux. Et le troisième élément, ce sont les acteurs du football qui sont en lien avec les instances qui nous ont disqualifiés. Est-ce que tout ceci faisait corps ensemble pour résoudre le problème? Non. Donc, il a fallu notre arrivée pour qu'on demande à la fédération de se remettre en selle. C'est la fédération qui discute avec la CAF pour que les choses puissent avancer. Nous avons constaté que dans le contrat qui est en exécution, ce qui était demandé par la CAF pour la réhabilitation, il y a un certain taux qui ne fait pas partie du contrat. Un autre point qu'il faut ajouter, c'est l'état de la pelouse du stade du 4 août. La pelouse est hors norme, alors que les travaux en cours ne prenaient pas ça. On avait un contrat avec une autre entreprise qui devait réhabiliter la pelouse, mais l'entreprise s'est montrée défaillante. C'est lorsque je suis arrivé, j'ai dû résilier le contrat au mois de mars ou avril. Mais il faut passer par des procédures pour résilier un contrat. Et donc, nous avons entamé des démarches pour savoir quelles sont les qualités de pelouse qu'il nous faut pour être homologué. Et donc, nous avons eu une expertise qui est venue à Ouaga. Ils nous ont fait un diagnostic et nous attendons que les devis nous soient présentés pour qu'on puisse se prononcer, pour que les travaux puissent démarrer. Mais ce qui est sûr, le dernier match de qualification des étalons pour la CAN en Côte d'Ivoire, mois de septembre contre l'ex-Swaziland Etswani aujourd'hui ne sera pas au stade Katoto. Les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde aussi ne pourront pas avoir lieu au stade Katoto. Il nous faut plusieurs stades comme ça se fait ailleurs. Donc un second stade est à l'ordre du jour. Nous avons pris la décision de construire un nouveau stade entre 15 000 et 20 000 places. Et que l'entretien est aussi plus facile, ainsi de suite. Et avec les prospections qui ont été faites, nous sommes en train de finaliser les accords pour avoir un terrain de 22 hectares au niveau de Kourougou pour que ce stade puisse être construit. Et la construction de ce stade, si tout va bien, sera réalisée par la Chine.
Vous êtes venu trouver également un gros dossier sur votre bureau, celui des salaires des entraîneurs. Alors, la question est réglée.
Oui, je peux dire d'entrée que ce problème est réglé et on est même en avance. Si vous permettez, je voudrais dire que les contrats des entraîneurs ne sont pas signés entre le ministère et les entraîneurs. Les contrats sont signés entre la fédération et les entraîneurs. Et le ministère fait une subvention ou qui est indexée pour payer les salaires des entraîneurs. Il se trouve qu'il manquait quand même une coordination entre les deux entités. Parce qu'entre celles qui contractent et celles qui donnent l'argent pour les payer, il aurait fallu qu'ils parlent de la même voix. Aujourd'hui, nous avons réussi à clarifier la situation. Nous avons le montant que nous avons pu demander pour qu'on le garantisse. Vous avez signé un contrat. On dit dans le contrat que le contrat fait 2 ans. Et on vous a donné des objectifs qui pourraient tenir sur les 2 ans. Mais 2 mois ou 3 mois plus tard, vous êtes allé dans des compétitions, vous avez été éliminé. Personne ne met à jour les objectifs de votre contrat. Donc vous êtes assis et vous dites, j'attends qu'on me paye. Nous, nous ne paierons des contrats que si les objectifs sont à jour.
Alors, monsieur le ministre, en français facile, vous l'avez dit, le contrat c'est pour 2 ans. Dans les objectifs, il doit qualifier l'équipe pour telle compétition. Et au bout de 3 mois, il est éliminé. Et ça dit que tout le temps où il sera à la maison, il ne sera pas payé.
Il faut qu'on mette à jour les objectifs de son contrat.
Ok.
Et ce qui est normal. Donc, on ne peut pas. Il faut mettre de l'ordre dans ça. Je n'ai pas dit que je ne le paye pas. J'ai dit qu'il faut mettre à jour les objectifs.
Parlant du contrat des objectifs, on sait qu'il y a l'entraîneur national, M. Hubert Vulut. Est-ce que chez lui aussi, le contrat d'objectif s'applique à lui?
Alors, vous voyez, ça, c'est tous les entraîneurs, sans exception, dans leur contrat, il y a des objectifs. Et ils sont tous pareils.
Sur le même pied d'égalité.
Sur le même pied d'égalité. On a dans le contrat que Hubert Vulut nous ramène la Coupe d'Afrique. Dans le contrat, c'est ça. Vous savez que son contrat a été signé avant qu'on ne sache même que la Coupe du Monde, on aurait 10 places. Et c'est au Qatar que ça a été décidé. Donc, cela veut dire que pour le moment, il a un contrat sur la CAN et qu'il va falloir faire l'ouverture pour concerner l'autre partie. Et il n'est jamais interdit de faire un avenant à un contrat. Ça peut être un avenant sans incidence comme un avenant avec incidence.
Et si on est éliminé dès le premier tour, on suspend le contrat?
Si on est éliminé dès le premier tour, la durée de son contrat va au-delà du premier tour. Donc si on ne lui donne pas de nouveaux objectifs, moi je dois prendre mes responsabilités.
On sait que récemment, en Conseil des ministres, vous avez soumis une réforme qui a été adoptée, Burkina Yinouigir Meta. Alors, qu'est-ce que c'est?
Nous avions, au niveau du Stade Katoto, subi tout un imbroglio. Et pour éviter tout cela et ne pas toujours avoir des responsabilités, nous avons dit, comme ailleurs ça s'est fait, il faut avoir une structure unique. C'est pour ça que nous avons regroupé au sein d'une même structure, Burkina Yiwiskr Meta, c'est Amoré, et qui a donc la responsabilité de s'occuper des études, contrôle des réalisations, de l'exploitation des réalisations, de la maintenance et aussi du bien-être des sportifs.
Et il aura un seul commandant à bord.
Il y aura un seul commandant à bord.
Merci bien, monsieur le ministre.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré à la retransmission Facebook Nassata Nabié. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.